Non, c'est ça, c'est un pèlerinage. Alors je reprends cette phrase à Koach, à Homri, Haya Mit'aden ou Mit'kadesh, Mitzat Kirvato et Lakdusha. La force matérielle se transfigurait par proximité de la sainteté. Ami Ukhedek l'Israël et de la sainteté spécifique à Israël. Va Koach Aruchani et la force spirituelle, Haya Mit'hazek. La force spirituelle se renforçait, s'affermissait, ou Mit'amet. Et devenait vaillante, Bekoa Chaim Malé, par la force d'une vie pleine. Ve à dire est impétueuse, non à dire c'est vaillante, Kedele Galot, afin de dévoiler, Rodo Vetifarto à l'Israël, sa gloire et sa magnificence sur Israël. C'est-à-dire le changement de connotation du mot juif en mot, en nom Israël. Que nous vivons de notre temps. Et il s'agit de cela, de ce dévoilement, qu'en fait, compte dans l'identité d'Israël, à l'indice hébraïque, il s'agissait de tout à fait autre chose. Il ne s'agissait pas du cosmopolite professionnel, et il ne s'agissait pas, du juif de confession religieuse exotique. Il s'agissait de l'hébreu, avec ses deux forces se transfigurant l'une l'autre, comme cela était au temps du roi David. Ça va jusque-là. Vous voyez pourquoi il y a une telle tension entre l'identité juive de diaspora et ce qui est en train de s'engendrer au niveau de l'identité hébraïque d'Israël, quelles que soient les convulsions de l'accouchement. Et tout ça se dévoile de façon tellement accélérée, tellement rapide, qu'on aurait été complètement, perplexe, déboussolé, incapable de diagnostiquer de quoi il s'agit, mener à projeter des faux schémas, des fausses catégories sur la réalité, si nous n'aurions pas eu l'enseignement du Rav Kook, c'est absolument évident. Alors, je continue. Al ad shekarne hodo, jusqu'à ce que, donc, dévoilée la majesté authentique d'Israël, ad shekarne hodo, jusqu'à ce que les rayons de cette majesté hayu meirim gamken ala olam kulo, arrive à éclairer le monde tout entier. Et comme cela sera dans le temps à venir. Vous avez en abrégé, Lamed, Aïn Lamed, ça veut dire les Atid Labo, dans le temps à venir. Et voilà quel est le verset, Ve'aya Shore Shishai. Et il arrivera qu'un rejeton, vous savez, certaines traductions disent un surgeon, mais c'est Shoresh, une racine de Ishaï, qui est le père de David, Asher Omed Lenetz Amim, qui se dressera comme l'étendard des peuples, Elav Goyim Idrushu, c'est lui que les nations rechercheront, Vaïta Menuchato Kavod, et son repos sera glorieux. Vous savez que ce verset, les théologiens du christianisme s'en sont emparés pour dire, eh bien c'est lui. Mais nous aurons déjà ce matin, un peu plus entre nous, et quand même refaire cette analyse mercredi soir, en employant plus précisément les catégories de la théologie chrétienne elle-même. Il y a eu un substitut mythique avec projection typologique de versets hébraïques sur une identité de signification grecque, l'homme-dieu, qui n'a rien à voir avec le roi David. Vous comprenez le problème, tel que j'essaie très très patiemment de la nanette. Lo milchama ben shne kochot. Pourquoi le verset a dit Ve'aya menuchato kavod? Sa menucha, sa tranquillité sera en gloire. Il n'y aura pas milchama, guerre, conflit, ben shne kochot, mitnagdim, entre ces deux forces qui se heurtent, qui s'opposent. Kiim me menucha shlema. La tranquillité parfaite. Et je vais essayer de vous éclairer ça, au fond, de manière anecdotique. Et on perçoit absolument ce que veut dire le rabbi ici, chaque fois qu'on lit un journal israélien, ou un journal juif d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on lit dans le journal? L'opposition de ces deux forces, les uns parlant des autres. Okay? Et alors, on ne peut pas lire ça en paix. D'ailleurs, le Shabbat, on ne lit pas le journal, parce que le Shabbat, il faut se reposer. Mais toute la semaine, Et toute la semaine, on lit cela, Joseph parlant de Judas, et Judas parlant de Joseph. C'est fanatique, c'est traître, c'est remarqué. Il y a deux caricatures qui s'affrontent. Alors, il n'y a pas de repos. Vous avez compris ce que veut dire le rabbin. Et j'ajoute, je répète, c'est deux caricatures qui s'affrontent. Parce que, vous lisez cela dans les sidrot que nous lisons toutes les Shabbatot de cette période de l'année, on lit le livre des Nombres, le livre de Bemidbar. Vous allez essayer de l'éclairer quand vous avez remarqué comment ce peuple descendant de justes et de saints, de tzadikim et de gdoshim, les patriarches, c'est un peuple turbulent sur lequel on a projeté cette définition, le peuple à la nuque raide, qui passe 40 ans du désert à se disputer avec Moïse, à qui ils doivent tout. Vous avez remarqué ça? Et il n'y a pas d'eau, et il n'y a pas de viande, et il n'y a pas de. Alors, je voudrais l'éclairer d'après l'analyse précédente. Ça veut dire que cette mise à l'épreuve était nécessaire, parce qu'il s'agissait de faire la preuve que pas seulement on est Israël à l'échelle individuelle de la vie privée, ça c'est les patriarches qui ont fait cette preuve. Il s'agissait de faire cette preuve d'identité à l'échelle d'une collectivité. Et c'est pourquoi vous n'avez aucune trace de condamnation, de la réclamation de ces 10 épreuves de la marche au désert. Non, parce que quand il n'y a pas d'eau, il faut demander de l'eau. Et quand il n'y a pas de pain, il faut demander du pain, etc. Mais de la forme dans laquelle c'est demandé. La touluna, la réclamation, je vais dire, revendicatrice. C'est la forme qui a été condamnée, et non pas du tout. C'est clair.
Lorsque,
oui. J'y vais. Ce qu'on a lu la semaine dernière. J'y arrive. Lorsque Dieu dit à Moïse, ils t'ont demandé de l'eau, ben tu verras que je leur donnerai de l'eau. Alors c'était normal qu'ils demandent de l'eau pour avoir de l'eau. Mais c'est la manière dont ils ont demandé de l'eau. Alors il n'y a plus à boire. C'est, si vous voulez, ce qu'on appelle en langage israélien de la rue, la chutzpah juive. Comment on réclame ce qu'on réclame. Et qui se dit dans l'épreuve biblique, la touluna. Effectivement, c'est tout ce problème du texte auquel vous faites allusion, il y a la paracha de Choukat. Okay? C'est à ce moment précis de cette querelle au sujet de l'eau qu'il va être décidé que Moïse n'entrera pas en Eretz Israël. Okay? Et là, c'est un sujet pour lui-même, mais ça vaut la peine d'ouvrir une petite parenthèse. Ça nous fait une détente. C'est ceci, c'est que Moïse rapporte à Dieu la réclamation du peuple. Il n'y a plus d'eau. Ici, il y a un thème extrêmement profond. Je n'aurai jamais le temps de l'élucider. Il faudrait un séminaire pour lui tout entier. C'est-à-dire que la génération du désert a été une génération où le problème temporel, dans toutes ses dimensions, le problème économique a été supprimé. Pendant 40 ans, le peuple hébreu a été entre parenthèses, en gestation de passage de l'identité individuelle à l'identité collective. Il n'y avait pas de problème temporel. C'est symbolisé. Je ne voudrais pas employer trop le mot de symbole, mais vous comprenez l'idée, dans trois directions. Le mérite de Moïse, d'Aaron et de Myriam. Grâce à Myriam, il y avait un puits qui accompagnait le peuple au désert. Dans un désert, il n'y a pas d'eau. Mais comme il y avait Myriam, il y avait un puits. Et grâce à Moïse, la manne tombait, le pain du ciel. Et grâce à Aaron, il n'y a pas de problème militaire. Parce que le peuple était protégé par ce qu'on en appelle Ranané Kavod, les nuages de la gloire qui trompaient l'ennemi. Et il n'y avait ni problème militaire, ni problème économique dans le sens général, et même pas problème vestimentaire. On apprend que Simnatra, Lovaleta, Alecha, ça veut dire les vêtements se retrouvaient repassés tous les matins, et etc. Et le peuple était voué à l'apprentissage de son identité, ce passage de l'hébreu à l'échelle individuelle, ça c'était les pères, de l'hébreu à l'échelle collective, ça c'était les fils. Vous avez remarqué que la Bible, la Torah, ne s'adresse qu'aux enfants d'Israël, aux bnei Israël. Elle ne concerne pas les avot. Les avot ont engendré l'identité qu'il s'agissait de promouvoir à l'échelle d'une collectivité. Et il y a une parenthèse de embryonnaire, si j'ose dire, de 40 ans dans le désert. On apprend dans la Sidra que nous avons lue Shabbat dernier que Myriam est morte à Kadesh. Et alors tout de suite après, le verset nous dit Velo Hayam Haim Laïda. Et il n'y avait pas d'eau pour Israël. Alors les chefs d'Israël ont demandé à Moïse de l'eau. Okay? Mais la manière dont ils ont demandé de l'eau a mis Moïse en colère. Alors Dieu a dit, tu vas leur donner de l'eau. Tu vas prendre le bâton avec lequel tu avais frappé le rocher la première fois. C'était... Oui. Mais tu vas parler au rocher. C'est un texte assez énigmatique du Talmud. Okay, je vous le cite de mémoire. Mais Moïse en colère, et là je vous cite l'explication de Maïmonide, que je vais ensuite critiquer. Enfin, critiquer, c'est pas le mot, mais vous comprenez. Moïse en colère frappe le rocher et l'eau sort, puisque le bâton fait sortir de l'eau. Ça devait être un bâton de sourcier, je sais pas. Alors Dieu dit, ah oui, vous n'avez pas eu foi en moi, vous n'avez pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël, c'est fini. Ni Moïse, ni Aaron, vous n'entrerez dans le pays d'Israël. Quelques versets après, le récit de la mort d'Aaron, et puis Aaron accepte, et Moïse sait déjà que c'est Josué qui va l'entrer. C'est à ça que vous allusion.
Non, c'est
pas
le mot
rebelle.
D'accord,
j'y arrive. Pas une insulte. Parce qu'ils étaient vraiment rebelles.
Je vous demande pas de décorer, peut-être.
Non, laissez Korach. J'ai pas fini. C'est pas fini. Alors, j'y arrive. Mais je voulais préciser que c'était à cela que vous alliez. Alors, premièrement, l'explication de Maïmonide, qui se trouve dans le quatrième chapitre des Shmoneh Prakim, où il dit, alors, la colère, même s'il s'agit d'une sainte colère, une colère qui n'est pas à sa place, interrompt la prophétie. Et il cite un certain nombre d'enseignements de la Gemara en particulier, Kohes, celui qui est en colère, si les prophètes, sa prophétie s'interrompt. Une citation pure et simple de la Gemara. Mais qu'est-ce qu'il fallait expliquer? Le contexte général de ce texte, c'est qu'on nous dit que Moïse avait une faute de colère, et le mot de colère n'est pas dans le texte. Okay? Qu'on nous dise que Moïse avait une faute de colère, c'est très bien, mais ça n'explique pas pourquoi la sanction est telle que Moïse et Aaron n'entreront pas, et en quoi il y a le fait de ne pas avoir l'eau et maintenant bi, ne pas avoir eu confiance en Dieu, ne pas avoir sanctifié Dieu aux yeux de tout Israël. J'arrive là à l'explication de Maïmonide. Maïmonide infère du fait que Moïse a frappé plutôt que parler qu'il était en colère. Et pour la thèse de Maïmonide, il y a ce que vous dites, Moïse leur dit « Shim'una hamorim aminatzela azen notzela nun mayim lachem mayim » Écoutez, rebelles, morim, est-ce que de ce rocher nous allons vous faire sortir de l'eau, alors que Dieu avait dit de ce rocher. Jusque-là donc, l'explication de Maïmonide serait que la colère de Moïse l'a fait traiter le peuple de rebelle. Or, Maïmonide n'insiste pas là-dessus. Maïmonide cite le verset, mais il ne dit pas du tout, lui, que le mot de Amorim, c'est le signe qu'ils étaient en colère, qu'il était en colère, Moïse. Les commentateurs de Maïmonide indiquent que c'est le fait qu'il ait frappé plutôt que parlé qui montre qu'il a frappé dans sa colère. Donc, l'explication de la Kabbalah est assez différente. Premièrement, sur le premier point, je ne voudrais pas trop insister, c'est que nous avons l'expression « Nevi Zaham ». Nevi Zaham, Zaham est un mot plus fort pour dire colère que karas même. On vous traduit ça habituellement « les prophètes de malheur ». Nevi Zaham. Non, c'est très précisément le prophète qui, de l'imprécation, comment dit-on ça, de l'exhortation de colère. Mais le prophète qui est Nevi Zaham, dans la colère, de la sainte colère, aime celui à qui il parle. Il ne s'agissait pas d'insulte, c'est plus grave que ça. Je veux dire, en même temps qu'il réprimande, il n'y a pas d'amertume dans cette colère. Il y a la tendresse d'un père qui corrige son fils, son enfant. Okay. Tandis que ce qui se passe là est beaucoup plus caractéristique, d'après l'enseignement de Harry d'ailleurs, qui dit ceci, dans toutes les contestations du peuple, Moïse intervient pour plaider pour Israël. Là, il ne plaide pas pour Israël. Alors donc, Dieu lui dit, eh bien, tu ne peux plus diriger ce peuple. Si tu n'es pas capable, si tu n'es plus capable de plaider pour eux. Et c'est ça que ça veut dire, tu n'as pas eu confiance en moi et tu ne m'as pas sanctifié aux yeux du peuple, c'est mon peuple. Et ton rôle, c'est de plaider pour eux. Est-ce que c'est clair, c'est vrai?
Mais Rachid dit autre chose.
Comment dit Rachid? Ça, je ne me souviens pas.
Rachid dit qu'une insulte publique, c'est quelque chose de beaucoup plus grave, se faire passer une pensée dans un acte, et l'acte est meurtre.
Attendez, quel est le mot que vous traduisez par insulte? Est-ce que je peux avoir un Sefer Bemidbar avec Rachid. Vous en avez un? Avec Rachid.
Ah, ah, voilà.
C'est Rachid. C'est Rachid. Bemidbar. Attendez, on va vérifier quel est le mot hébreu qu'on peut Rachid. Si jamais c'est un mot français, on est bien avant. Rachid, vous avez cité, c'est sur Shimona Amorim, c'est sur le monde à moi. Alors j'y arrive. Oui, 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 oui. Bon, j'ai le verset, mais je n'ai pas la note. En tout cas, sur le verset lui-même, je ne vois pas ce que vous dites, c'est donc peut-être sur un autre verset.
Ou alors, si, parce que ça l'est d'un.
Ah bon, donc c'est pas Rachid. Okay. Mais je veux dire, ce que Rachid dit en expliquant le mot de Morim, c'est pourquoi ce mot signifie en hébreu simultanément les maîtres, ceux qui enseignent Moré, Morim, et Moré avec Ré à la fin, signifie aussi rebelle, Soré ou Moré. Okay. Alors il dit, c'est ceux qui réprimandent leur propre maître, Morim. Ce maître, je n'ai pas trouvé ici le mot de insulte. Et c'est pourquoi je vous ai demandé quel est le mot hébreu que vous traduisez par là. Le thème, et c'est pas du tout insulte. Je dirais d'une certaine manière, c'est pire que ça. C'est le fait que tout se passe comme si Moïse dit, vous ne m'intéressez plus. Alors, quelle est l'explication? C'est que Moïse est devenu trop haut pour eux. Et alors, il faut qu'il passe le relais à Josué. Est-ce que c'est clair,
Je comprends pas. Il n'y a pas de trace
de faute. C'est quelque chose d'assez énigmatique. Admettons que ce soit une faute. Okay. Et alors, la sanction est incommensurable vis-à-vis de la faute que cela serait. Et si vous identifiez dans l'expérience de l'existence, eh bien, imaginez Moïse devant transformer ce ramassis de rescapés en une nation, le travail qu'il avait. Et à chaque pas, il se heurte à ce qu'on vous raconte dans tous les journaux juifs. Et alors, il est tout à fait normal qu'un jour il leur dise, zut, c'est clair. Alors, Dieu l'attend là. Il dit, ah oui, zut, alors tu ne peux pas être leur chef. C'est clair. C'est beaucoup plus. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une faute de date. C'est une incapacité d'être au niveau où il fallait se mettre. Il est trop grand. Alors on va avoir un petit Moïse qui s'appelle Josué.
Dans quel cas, on ne peut pas dire que justement, Moïse a été tellement proche de Dieu, puisque c'est votre. Il a fini par être décalé par rapport aux hommes.
C'est exactement ce que j'essaye d'expliquer à votre thème. C'est la même chose. Et la Gemara, sur ce thème, dit. Moïse ne rentrera pas en Eretz Israël parce que sa génération ne peut pas rentrer. Alors il reviendra quand il ramènera sa génération. Probablement il est en chemin. Parce que vous avez remarqué les juifs rebelles qui arrivent là-bas. Mais il a fallu 4000 ans pour que ça se s'atténue. Donc, alors on continue. Peut-être vous voulez prendre un petit moment de détente. Okay. Non, sur place, si vous avez des questions, et on revient.
Y a-t-il une. Vous avez parlé de la couleur tout à l'heure du rouge de l'Ésaïe. Y a-t-il une couleur spécifique pour d'autres.
Oui, par exemple,
la
vertu de. Je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais la vertu de charité, c'est la couleur blanche. Ouais. Alors que la vertu de rigueur, c'est la couleur rouge. Et tous les thèmes du Zohar concernant la rose. En tant qu'elle est le symbole du juste. Celui qui n'est ni rouge ni blanc, je ne sais pas comment dire, mais les deux à la fois.
Qui a un rapport avec la rose du cantique du Cantique.
Oui, en réalité, je dois vous dire d'ailleurs que c'est un lys, cette rose-là. Okay. Shoshana Taramakim, c'est le lys. Le lys. La rose, c'est Veret. Hein? Bien.
Le fait que le communiste prenne drapeau rouge, c'est un rapport, plus ou moins.
Je crois que, je veux dire, là il faudrait se référer à une discipline qui existe et qui s'appelle la héraldique, Machu Kazé. Oui. Toute l'étude de la symbolique des blasons, des drapeaux, des couleurs, des noms d'ailleurs. C'est une étude qui existe, dans laquelle je ne suis pas très très compétent. Il me semble me souvenir, ça c'est en tout cas un souvenir, que un certain nombre de psychanalystes, disons de psychologues contemporains, mais en particulier les psychanalystes, ont établi une certaine correspondance entre l'imagerie de l'inconscient et les formes de l'imagerie de la héraldique. Bon, ce sont des sciences extrêmement spécialisées, au niveau des archétypes, d'ailleurs. Enfin, ce qu'on pourrait exprimer du point de vue de la signification de cette correspondance, c'est qu'à partir du moment où vous avez une société totalitaire, tout se passe comme si spontanément, elle prend comme couleur de son drapeau la couleur rouge, parce que c'est la Midat Hadin qui est Sholet, dominante.
Et le bleu, c'est le bleu du Sinaï ?
Non, le bleu, c'est la couleur de Jacob, mais il y a deux bleus différents. Trelet. Trelet, c'est pas Kahol, exactement. Mais là, c'est une symbolique sur laquelle je ne voudrais pas entrer. Ken ? Attends, j'en ai parlé tout à l'heure, tu es arrivé en retard. Alors très, très rapidement, c'est-à-dire le chef politique qui se met au-dessus de la loi et, par exemple, tout ce danger de, je ne sais pas comment on disait avant, le caprice du roi, la raison d'État, c'est devenu la raison d'État. C'est, et finalement, il est le garant de la légalité qui prime la moralité. Et la loi est dure, mais c'est la loi, ça c'est la formule romaine. Hein. Comment
dit-on ?
Oui. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors cela, c'est la royauté de type romain, de type droit romain. Alors que la royauté selon David, c'est bien sûr qu'il faut que la loi prime, mais en tenant compte de la dignité de la personne humaine individuelle. Et en schématisant beaucoup, parce qu'à travers l'histoire, il y a eu beaucoup de tentatives. Par exemple, les despotes éclairés, les tyrannies dans le sens étymologique, qui n'étaient pas du tout les tyrannies dans le sens du dictionnaire. Mais je crois que finalement, ce n'est que dans les temps modernes, à partir de la Révolution française, qu'on a commencé à penser de façon cohérente un projet de société basé sur un projet moral et non plus sur un projet de puissance. Or, c'est le temps contemporain du sionisme auquel fait allusion le Rav dans le texte que j'ai lu tout à l'heure. C'est à ce moment-là que c'est diagnostiqué dans le peuple juif de l'exil que l'État, c'est plus l'État de Rome, ça peut être celui de la Révolution française, et alors là, à travers énormément de facteurs qui ont fait que les sionistes n'ont pas choisi la solution du judaïsme français de l'émancipation à la française, et je dirai pourquoi très rapidement, que les idéologies sionistes de l'utopie morale de l'État ont commencé à se formuler. Et c'est là que le retour en Sion s'est déclenché. Vous voyez à quel point le rap parle de choses concrètes. Donc on peut le dire très, très rapidement de la manière suivante. Au temps de la Révolution française, et c'était le temps du Sanhédrin de Napoléon, lorsque la République, à travers l'Empire, a proposé aux Juifs la solution du problème juif par l'émancipation civique, par l'égalité des droits de citoyens, ce type de solution était praticable dans les pays de l'Europe occidentale. Je devrais dire même extrême occidental, et c'est très peu, l'Angleterre, l'Allemagne de ce temps, l'Italie et la France, où il y avait peu de juifs proportionnellement à la population non-juive de l'État. Il y avait, il me semble, 25 à 30 000 juifs au temps du Sanhédrin de Napoléon en France. Il y avait à peu près une trentaine de millions de Français, peut-être un peu plus. Et alors, un État comme la France de ce temps-là, de façon très généreuse, peut offrir sa citoyenneté à une minorité nationale et religieuse étrangère, les juifs de ce temps. Elle l'a fait avec beaucoup de générosité. C'était praticable parce qu'il y avait une minorité infime qu'on pouvait transformer en église juive, en église israélite. Si vous voulez. C'est clair. Mais dans les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale, où il y avait une masse d'un peuple juif, c'était pas praticable. Alors c'est donc la raison pour laquelle le sionisme est né là-bas et pas ici. Vous comprenez le problème. Mais but dedans ce diagnostic que le temps est venu où il est pensable, grâce à la Révolution française d'ailleurs, vous rappelez le lien entre les idéologues de la Scala, qui sont devenus les chefs politiques du sionisme politique, et d'autre part les idéologues de la Révolution française. Qu'on peut penser à une société de type hébraïque. C'est clair.
Je vais vous demander un
moment. Une minute. Je te rends la parole. Oui, alors ça, je vais vous dire. On n'est pas encore arrivé dans notre propre étude du matin. Et puis j'arriverai le plus rapidement possible dans l'étude de l'après-midi avec le Maïmonide. Mais il est très frappant, effectivement, sur ce premier point, qu'il faut d'abord mettre en évidence les fonctions de la personne du Messie. Et ensuite seulement nous parlerons de la personne du Messie. Je voudrais attendre d'abord d'avoir analysé ce que j'appellerais dans mon langage l'hérésie chrétienne. Où on a substitué un homme en qui on croit à un homme qui devait être celui qui accomplit les promesses de Dieu. Qu'ensuite, il y a eu une projection de préfiguration typologique, c'est de l'exégèse théologique postérieure, hein, mais on a substitué une toute autre fonction à cet homme qu'on appelle le Messie. Il devient le véhicule de la divinité en qui on croit, et non plus le roi d'Israël qui doit accomplir la prophétie des prophètes. Est-ce que vous comprenez la différence? Alors après, nous parlerons de la personne du Messie. Mais c'est très différent au niveau de la messianité de Joseph, où le Messie peut être, et c'est le cas, je pense, d'après l'enseignement du Rav Kook, clandestin. Il ne se dévoile pas, il ne dit pas qui dit. Mais il fonctionne. Okay, il fonctionne d'après ce verset que nous avons lu. Parce que si ce n'est pas Dieu qui ramène les exilés d'Israël 2000 ans après, qui, comme j'ai dit hier après-midi, peut-être un peu trop rapidement, et j'y reviendrai, alors qui? Le diable? Ça, c'est l'opinion des religions antisémites. Vous avez compris et nous sommes vraiment dans une espèce de problématique d'affrontement des engagements de foi qui est très grave. Mais finalement, l'histoire a énormément de gentillesse. Finalement, même ces juifs anti-sionistes, c'est des juifs. Et finalement, c'est là-bas qu'ils y vont. Ils le disent eux-mêmes trois fois par jour dans la prière. Je pense que... Et on les accueillera avec un sourire accueillant. Je sais. Oui, oui, on y arrive. Cette articulation s'est faite lorsque Joseph et Judas se sont reconnus en Égypte. Mais là, avec la fille de Dina, c'est-à-dire Asnath, Joseph a assuré la descendance de qui est né, Ephraïm. Et le problème est renvoyé à l'histoire d'Israël comme société. Il faut que Malchut Yehuda et Malchut Israël Ephraïm s'unifient. Et tout se passe comme si l'histoire des patriarches a été un engendrement difficile. Vous rappelez, stérilité à chaque étape, jusqu'à ce que, difficile, mais réussi à l'échelle individuelle. Et qu'il a fallu ce long effort de gestation à l'échelle collective qui a pris tout le temps de la civilisation universelle. Au fond, qu'est-ce que c'est que le sionisme dit religieux contemporain, le sionisme du rabbin? C'est le fait de diagnostiquer que l'accouchement est en train de se faire, tout simplement. Or, comme les événements sont là, les événements sont là. Alors le problème, c'est finalement, on y participe ou on n'y participe pas. Ça concerne tous les juifs. Eh bien, il y a peut-être ce privilège gratuit d'être ceux qui y participent et ceux qui attendent de rejoindre. C'est possible. Mais est-ce que les événements de l'histoire universelle nous laisseront le temps d'avoir le temps? C'est au fond la seule inquiétude. Mais que le processus s'est engagé, c'est ce qu'on lit dans les journaux tous les jours. Alors voilà ce que je vous dis. C'est clair. Oui. Oui. Bon, on m'a déjà posé une fois cette question, c'est peut-être toi d'ailleurs. Alors il faudrait que je retrouve, mais je ne sais pas si on le trouvera à Paris, un livre qui donne toutes ces généalogies qui s'appelle le Seder Adorot, l'ordre des générations. Mais dans tous les cas, retenez que finalement, l'affiliation féminine de David, c'est Ruth, dans tous les cas. Bien que ça passe par son père, Ken, mais c'est Ruth. Rapidement, parce qu'on risque de s'écarter du sujet. Le cédère à l'autre. Tu peux me l'amener demain, votre nom. Ou elle. Ouais. Entendu. Okay.
Est-ce que c'est très dominant que la société de Machia prenne le fait de la fraternité? Vous avez d'ailleurs en France le fait que justement le bon vers le
fait. Absolument. Je reviens sur cette analyse. C'est que ça m'a beaucoup frappé lorsque j'ai commencé depuis 30 ans à étudier l'enseignement du Rav Kook. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il y a eu dans les mouvements sionistes non religieux une telle recherche de ce qu'on pouvait déjà appeler à l'époque la fraternité socialiste utopique. Reprenez ces textes. Ils sont parfois un peu vieillis du point de vue de la langue et du style. Mais, par exemple, une aventure comme celle du Kibbutz, c'est le parti pris absolu d'essayer de réaliser cela. Alors, il n'y a que des frères en train de devenir frères qui sont en friction. Mais c'est une friction de frères. Je veux dire que l'idéal qui est désigné, c'est celui-là. Il s'agit de réussir l'être frère au niveau de la collectivité et pas seulement au niveau d'un ordre où les frères sont des frères, mais c'est un ordre, comme on dit les couvents, etc. Ou au niveau d'une paroisse où bien sûr les frères sont des frères, mais en situation ecclésiale, en situation liturgique et non pas au niveau de la société. Je veux dire que c'est précisément ce processus qui est en cours et ce qui se dévoile comme difficulté. C'est ce qui nous est raconté dans l'histoire de la vie, dans les racines de l'être dont il s'agit, de cette Israël dans ses différentes tribus, et que le Rav nous explique. Voilà comment cette identité de base, celle de la famille des patriarches, se réalise dans la société contemporaine, au niveau de la société. Je pense que là, il y a un problème de diagnostic. Ça dépend avec quels yeux on voit le paysage dont on parle. Vous comprenez. Je vous rappellerai simplement une anecdote que nous a racontée souvent le Rav Kook, le fils, mais ne prenez pas ça du tout comme polémique. Hein. C'est une analyse d'éclairage.
Oui. Pour les gens qui sont intéressés à participer au séminaire de Manitou, pour les amis, on a pour des gens qui sont dans le groupe, au mois d'août, du 7 au 27,
à Jérusalem.
Ils sont priés de venir me voir au bureau.
Merci. Alors,
ce soir, on va plutôt faire une deuxième conférence, pas dans le cadre de ce séminaire, mais dans le cadre de la connaissance d'Israël, sur Eretz Israël dans la pensée du Rav Kook. Vous êtes cordialement invité à y assister, si c'est bien, à 20h30.
Où ça se passe?
Ça se passe, on n'a pas encore fixé, je crois, dans la salle 7. Dans la salle 7 ou dans la salle à manger ou dans la bibliothèque.
Bon.
Sur la grande salle.
Entendu. Enfin, je devais vous le dire à la fin du cours. Mais alors, je veux simplement demander si quelqu'un qui doit venir ce soir, mais ne venait pas exprès pour ça, pourrait m'apporter un sidour Ashkenaz. Parce que je voudrais, à propos de l'étude de ce soir, confronter deux textes, un Ashkenaz et un Sfarad. Alors que dans ma serviette, j'ai par hasard que le sidour Sfarad. Top. Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Entendu. Très bien. Bien. Alors, on enchaîne. S'il n'y a pas d'autres questions, nous avons encore. Oui. Ah oui, juste avant que j'oublie l'anecdote. Vous savez qu'est-ce que c'est un chidour en hébreu, hein, comment on dit ça en français, j'ai oublié. Une entrevue de pré-matrimoniale. Je ne sais pas comment. Comment vous dites en français?
C'est exécuté en français. En France, ça n'existe pas.
C'est entrevue, on n'en parle pas.
Bon. Alors, le Rav nous racontait, si vous voulez, surtout les premières années, quand des juifs qui n'étaient pas, si vous voulez, pris par l'engagement sioniste comme tel, et qui se définit finalement pour notre sujet en deux phrases, l'âme du Machiav Ben Yosef est née. Et rappelez-moi de revenir sur ce verset. Elle est née, ça y est, c'est engagé. Donc, fin de la diaspora, fin de la galoute, il n'y a pas de problème. Et on va construire la maison de Judas en Eretz Israël, en hébreu, avec les difficultés que ça aura, mais on a démarré. C'est ça le sujet. Donc, alors on se retrouve, Joseph, Judas, les querelles, les problèmes, mais c'est dans la maison. Mais il y avait beaucoup de juifs qui sont venus voir. Ils ont dit, quoi, que ça, c'est ça, on attendait le temps messianique. Et qu'est-ce qu'on trouve? Ça. Alors le Rav, vous avez compris le problème. Le Rav leur racontait cette histoire que j'ai souvent citée, je suppose. Il dit, un jour, il y a un jeune homme qui a demandé une jeune fille en mariage. Et alors, la jeune fille qui avait entendu parler du jeune homme ne voulait pas de lui. Alors, le jour de l'entrevue, au lieu de s'embellir, elle s'est enlaidie. Résultat, il a dit, je veux pas d'elle. Morale de l'histoire, nous dit le Rav, c'est elle qui voulait pas de lui. C'est vrai, quoi. C'est une histoire terrible, mais enfin, c'est comme ça. Alors, il a ajouté, mais insister, la fiancée est belle, insister quand même. De telle sorte de voir qu'est-ce qu'il y a derrière les yeux de David. Vous avez compris ? Alors on revient. Quelle est votre question ? Oui, oui. La mère d'Abraham. Top, très bien. Alors on recollera les deux questions. Pas dans ma mémoire, non. Je sais que j'ai lu ça, mais. On va retrouver dans le célébrant. Bien. Oui, il y a encore une question. Oui, c'était toi. Excuse-moi, mais...
Oui, merci. Non, je voulais vous demander, je crois que... Enfin, je ne sais pas très bien que Yehuda n'a pas participé ou participé de très près à la vente de Joseph, de ses frères. Et dans le parashat de Vaïgash, dans le premier verset, Rashi nous dit, Vaïgash élève Yehuda, ça veut dire qu'il a voulu le tuer. Or, et après, juste le verset suivant, Joseph s'est révélé à ses frères en disant voilà, je suis votre frère Joseph, est-ce que mon père est encore vivant? Est-ce que Joseph a voulu attendre ces derniers moments de menace que Yehuda voulait le tuer pour essayer de dévoiler à ses frères ou...
Écoutez, je suis obligé de prendre le texte pour répondre à cette question, il me faut 10 minutes. Ça va? Ça va? Vous avez entendu la question? Okay. Alors on y arrive. Voilà, vous allez prendre les références, ça commence, toute cette histoire commence à la paracha de Vayeshé. Alors je vous donne tout de suite la référence.
Hier vous avez dit que dans le livre Sfarad, il est marqué qu'il ne faut pas que Joseph soit tué.
Non, le Mashiach ben Yosef.
C'est ça. C'est Joseph. C'est
non, c'était un autre thème. Hein. Là, qui nous renvoie à Joseph de l'histoire des patriarches. Vous allez prendre ceux qui ont les livres au chapitre 37 de la Genèse. Un premier verset que je vais vous lire. Lorsque Joseph a commencé à rêver à sa propre vocation, qui est, comme nous allons le voir assez rapidement, d'après d'ailleurs le verset que nous avons déjà étudié, Ohel Shiken Ba'adam, Joseph va planter sa tente dans la civilisation extérieure. Il commence à rêver que quelque part le blé pousse et qu'il faut faire des gerbes pour donner à manger à toute la terre. En langage, disons, symbolique, entre guillemets, il rêve son rêve de vocation messianique Joseph, première manière, c'est-à-dire transfigurer la civilisation extérieure du dedans d'elle-même. Ça a été la tentative de Joseph de sanctifier la civilisation du temps qui était la civilisation de l'Égypte. Où est-ce que le blé poussait? Finalement, on apprend que le blé pousse en Égypte. Alors qu'il y a la famine partout ailleurs. Vous recodez sur les analyses d'hier matin. Okay. Le deuxième rêve étant, là où il y a la nuit, et la nuit symbolise toujours l'exil, quand c'est la nuit, il faut être les luminaires dans la nuit, être les Mahoragola, les lumières dans l'exil. Bon. Alors il rêve cela, et il raconte son rêve à ses frères. Et ses frères le font passer en jugement. Traite à la cause d'Israël selon Judas. Pourquoi ? Il y a eu déjà une première. Il y a eu déjà une première expérience avec Jacob chez Laban. Et on nous a raconté déjà un modèle de ce qu'est la vocation de l'identité hébraïque dans la civilisation extérieure. Je ne rentre pas dans le détail du récit, mais nous savons finalement que c'est à la fin de l'exil de Jacob chez Laban que Joseph va naître, et dès que Joseph naît, Jacob dit à Laban, le temps est venu pour moi de rentrer chez moi. très très rapidement. Je vous cite le verset de mémoire. Rachel est empêchée d'enfanter. Cet être Joseph, qui va être le premier fils de Rachel, tarde à venir. Et où Jacob voit que c'est le signe de la fin de l'exil. C'est dans la manière dont Rachel, voyant cet enfant qui naît, et qui va s'appeler Joseph, le nomme, en disant « Yosef, Hachem, li, ben Achem » que Dieu m'ajoute, Yosef, qu'il m'ajoute un autre fils. Et donc Joseph est nommé du souhait de la naissance de Benjamin. On est renvoyé au premier récit de l'histoire des deux frères qui est Caïn et Abel. Caïn était le premier-né, et celui qui est né après Abel était en danger chez lui, parce que Caïn était incapable de fraternité du premier-né. C'est clair. Lorsque Rachel voit cet enfant naître, elle l'appelle Yosef en souhaitant qu'il y en ait un autre, et ça veut dire qu'il sera en sécurité, parce qu'elle a vu le premier-né fraternel, dangereux. C'est pas juste-là. Okay. Pour vous le dire en langage de Kabbalah, tout se passe comme si c'est Hava elle-même qui cette fois voit que le frère sera le frère. Alors toute l'histoire de l'exil qui commence à Caïn s'achève avec Joseph. Vous vous rappelez que l'exil avait commencé à Caïn. Okay. Et que l'exil est toujours la conséquence de l'incapacité de fraternité. Ça va jusque-là? Top. Et alors, à ce moment précis, le texte dit, Vaïhi, il arriva, lorsque Joseph fut né, Jacob dit à Laban, Shalecheni ve'elecha el mekomi ve'larti. Renvoie-moi et j'irai à mon endroit et à ma terre. Ça veut dire, le rôle de l'exil de Jacob chez Laban, qui était d'aboutir à engendrer l'être frère. Rappelez-vous le vocabulaire de l'analyse précédente, la société est basée sur un projet moral et plus sur un projet. Joseph est né, on rentre. C'est clair? Vous voyez pourquoi le moment, ma chère Ben Yosef, c'est premièrement la fin de l'exil. Ça va jusque-là? Top. Et alors, les frères de Joseph étaient déjà adultes quand Joseph est né. Ils ont vécu l'histoire de l'exil de Jacob chez Laban et en ont tiré l'expérience d'un échec. Parce que Jacob a été le berger des troupeaux de Laban, et cependant, et le mari de ses filles, okay, les tribus d'Israël sont nées du mariage entre Jacob et les filles de Laban. Vous vous rappelez de ça? Vous voyez tout ce qu'il y a derrière cette symbolique d'analyse, entre guillemets. Mais le texte nous raconte qu'à la fin de cette histoire, Laban se transforme dans ce que nous appelons aujourd'hui antisémite, en disant à Jacob, tes femmes, c'est mes filles, et tes troupeaux, c'est les miens. Vous vous rappelez de cela? Et les femmes de Jacob l'avertissent. Attention, nous savons lire sur le visage de notre père. Ça va mal pour toi. Enfuis-toi. Okay. Alors, les enfants de Jacob, tous adultes, le bilan qu'ils en ont tiré, c'est que l'attentive de type Joseph qu'avait fait Jacob en préfiguration aboutit à l'échec. Et rappelez-vous bien que ce schéma, ça a été le schéma de toutes les tentatives joséphiques en Égypte. Okay. Finalement, Joseph est le porteur de fécondité, selon le récit de la Bible à ce niveau. La matrice de l'Égypte était stérile, Joseph la féconde. Et partout où Joseph, la fécondité apparaît. Et à la fin, ça se transforme en société totalitaire qui a comme objectif premier l'anéantissement de l'identité d'Israël. C'est levé un pharaon qui avait oublié Joseph. Vous vous rappelez le récit de la Bible? Okay. Et alors donc, je reviens à ce point précis pour répondre à notre question. Lorsque Joseph commence à rêver qu'il faut refaire le voyage de Jacob, ses frères le font passer en jugement, et parce que eux, le bilan qu'ils en ont tiré, c'est que c'est un échec, et qu'il faut renoncer à la tentative joséphique de Joseph en Égypte pour fonder la maison de Judas. C'est clair jusque-là? Alors voilà le verset que je voulais vous dire. Jacob a diagnostiqué cette tension des deux messianiques. Et, premièrement, il prend parti pour Joseph. Vous vous rappelez qu'il privilégié.